BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Touraine.
Allez, il est 11h sur BFM Business. C'est la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine. Merci d'être avec nous, BFM Patrimoine. L'émission 100% placement avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos choix d'investissement, pour vous donner des nouvelles de la bourse aussi avec un CAC 40 qui est un petit peu dans une phase d'attente. On a eu la Fed hier soir, la BCE. On va la voir tout à l'heure à 14h15. Le CAC 40 qui perd moins 0,44% à 7371. Sans plus tarder, on retrouve l'essentiel de l'info éco, c'est avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, après la Fed hier soir, c'est la réunion de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, elle devrait relever ses taux d'intérêt pour la 7e fois en moins d'un an. On retrouve notre envoyé spécial depuis Francfort, Aude Kersulek. Bonjour Aude. Alors hier, Jérôme Powell a laissé espérer une pause dans les hausses de taux. Est-ce que la tendance est la même du côté de Christine Lagarde ?
Eh bien non, on devrait nous répéter que le voyage de normalisation monétaire n'est pas terminé. On ne s'attend pas tellement à une pause. D'ailleurs, même la pause a été largement sous-entendue hier par Jérôme Powell parce qu'il est resté très évasif et c'est seulement parce que une phrase a été retirée du communiqué que les investisseurs ont interprété cette pause. Alors on attend une hausse de 25 points de base. Ce serait cela dit la plus faible hausse depuis le mois de juillet. Donc on note quand même une décélération. En fait, les derniers chiffres d'inflation en zone euro sont assez difficiles à interpréter. On a l'inflation générale en avril sur un an qui est montée de 6,9 à 7%, mais l'inflation core sous-jacente, la moins volatile, elle a baissé pour la première fois en 10 mois à 5,7%. Ça reste très élevé, très au-dessus de l'objectif des 2%, et c'est une variation de toute façon trop récente et trop peu marquée pour amorcer un début de changement de politique monétaire. Mais il y a un autre indicateur que la BCE regarde, c'est celui de la distribution de crédits. On a vu au cours de ce premier trimestre les crédits octroyés avaient été beaucoup plus faibles qu'auparavant. Les banques ont durci les critères de financement comme jamais depuis 2011. Ça veut dire que la politique monétaire restrictive fonctionne. On va donc lui laisser le temps de fonctionner encore un peu. Surtout, on a vu qu'il y avait des répercussions sur le secteur bancaire. Voilà pourquoi la BCE devrait préférer une hausse de 25 points de base seulement.
Merci beaucoup Aude Kersulek en direct depuis Francfort. Et puis on vous retrouve évidemment cet après-midi à partir de 14h pour l'émission spéciale à suivre sur BFM Business. En France, la croissance de l'activité du secteur privé est révisée à la baisse pour le mois d'avril, en cause la forte baisse de la production manufacturière et une légère détérioration de la confiance dans les services. Dans le reste de l'actualité, Meta est dans le viseur de l'autorité de la concurrence. Elle prononce des mesures conservatoires à l'encontre de la maison mère de Facebook et d'Instagram et demande à la plateforme de définir de nouveaux critères pour garantir la concurrence dans le secteur de la vérification publicitaire. Beaucoup de résultats d'entreprise pour le premier trimestre ce matin. Casino annonce un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 5,4 milliards d'euros. Les revenus sont en recul de 4,6% en France. Le groupe évoque un contexte difficile dans ses supermarchés et hypermarchés où il a baissé ses prix. Veolia publie un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 12 milliards d'euros. C'est lié au prix élevé de l'énergie répercuté sur ses clients. Le groupe s'attend à une année 2023 en forte croissance. De son côté, Capgemini annonce un chiffre d'affaires en hausse de près de 11% à 5,7 milliards d'euros. C'est toutefois moins qu'attendu. Le groupe évoque un environnement économique toujours tendu qui se traduit par un attentisme de certains clients, mais il confirme ses objectifs pour cette année. Dans le secteur auto, BMW annonce un bénéfice net en chute de 64% à 3,7 milliards d'euros, en cause l'intégration de sa co-entreprise chinoise BMW Billions et la baisse des ventes, notamment en Chine et en Europe, malgré une croissance dans l'électrique. Baisse du bénéfice net aussi du côté de Volkswagen, avec une chute de 30% à 4,7 milliards d'euros. C'est lié à un effet comptable. Le chiffre d'affaires augmente, lui, de 22%, dopé par une reprise des ventes en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe confirme ses objectifs pour cette année. Enfin, Maersk annonce un bénéfice net divisé par 3 à 2 milliards d'euros. C'est moins qu'attendu. Le trimestre est marqué par la baisse des volumes après une année 2022 exceptionnelle, hein, du fait de la surchauffe du fret maritime, Vincent.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, on vous retrouve tout à l'heure dans 90 minutes business pour un nouveau point sur l'actualité économique.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Et nos invités de regard croisé aujourd'hui, c'est Sébastien Barbe, bonjour.
Bonjour Vincent.
Directeur général de Montpensier Finance et Stanislas de Bailliencourt. Bonjour Stanislas, bonjour. Merci d'être là, gérant chez Sycomore Asset Management. Avec vous, on va parler de ces marchés qui calent un petit peu là depuis quelques jours. Vous allez me dire, il y a beaucoup de rendez-vous avec les banques centrales, donc forcément on hésite un petit peu, on ne sait pas trop sur quel pied danser. La Fed hier, la BCE aujourd'hui, des derniers résultats en date aussi, plutôt mal accueillis en bourse, hein, on a l'impression qu'il faut vraiment mettre la barre très haut pour plaire à la bourse en ce moment. Mais tout d'abord, votre état d'esprit à l'un et à l'autre dans ce contexte de marché qui reste quand même assez favorable avec des indices, pour ne parler que du CAC 40, qui reste assez haut quand même. Sébastien, chez Montpensier, vous êtes confortable ou vous vous dites, attention là, ça commence à être risqué?
En fait, chez Montpensier, on a été positif très tôt, dès l'automne, et on en a bien profité sur les marchés, et ça fait quand même quelques semaines où on rejoint le camp des gens qui sont un petit peu moins optimistes, mmh, en se disant qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent, mais force est de constater que ça ne pèse pas tellement sur le marché, qui reste quand même très très fort, malgré toute une litanie, encore une fois, de mauvaises nouvelles dont on peut disserter tous ensemble.
Stanislas, chez Sycomore.
On a un très bon début d'année sur les marchés qui reflète une excellente santé des entreprises.
À peu près 15% sur le CAC.
Hein, oui, 14 ouais. à 15. Mais ouais. Enfin, si on prend un pas de recul, il n'y a pas que le CAC. Mais
oui, bien sûr.
Même aux États-Unis, on a des hausses entre 5 et 7%, à peu près 10% en Europe. Donc, globalement, des fortes progressions qui reflètent des marges qui sont aujourd'hui au pic de la part des entreprises.
Ah, si on est au pic, ça veut dire qu'on ne peut pas faire mieux.
Ce qui pose aussi un peu la question de la suite, de dire ouais, là, dans ce contexte, aujourd'hui on présente de très bons résultats, et c'est ce que vous avez dit en introduction, malgré de très bons résultats, malgré parfois des hausses en séquentiel, on a des réactions boursières négatives, parce qu'il faut un peu dessiner quelle est la prochaine étape, comment est-ce qu'on va réussir à faire mieux dans ce contexte, et toujours avec un peu une crainte de ralentissement économique pour la deuxième partie de cette année ou pour l'année 2024, du fait des hausses de taux qui ont été réalisées au cours des 12 derniers mois.
Donc ça, j'imagine que vous l'anticipez, et du coup, vous êtes...
Du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a certains secteurs qui ont déjà valorisé l'intégralité des bonnes nouvelles en cours, sur lesquelles on commence à être beaucoup plus prudent. Donc, on commence à disséquer la cote et à travailler plus en finesse. Ouais. On pense notamment à la pharmacie qui continue à avoir une croissance régulière de ses résultats. Il y a des nouveaux médicaments qui viennent sur le marché chez Sanofi, également chez Novartis pour le cancer du sein. Donc, on essaie de rentrer...
Ne dites pas tout de suite, mais bon, il y a des choses quand même qui ont un potentiel.
Mais plus généralement, on a des marchés qui aujourd'hui sont bien valorisés, en particulier aux États-Unis où les multiples sont relativement élevés.
Ouais.
Et surtout si on compare ça au niveau de taux d'intérêt qui aujourd'hui offre une vraie alternative à l'investissement, que ce soit en Europe, quand on regarde les obligations entreprises, les obligations convertibles aussi, etc. On trouve, donc ça empêche aussi, ou ça va limiter à un moment donné la hausse des marchés actions.
L'actualité la plus immédiate, c'est vous voulez rajouter quelque chose sur un petit peu le...
Non, je confirme.
Big picture.
En fait, le vrai risque en fait dans ces marchés, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de professionnels qui sont... parfois pessimiste,
ouais,
et que ça, normalement, ça aide un marché à monter.
D'accord, assez paradoxalement. Bon, la BCE, aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur la BCE, après avoir eu les yeux rivés sur la Fed hier soir. L'un, l'autre, vous penchez pour quoi? Plus 25 points de base, plus 50 points de base?
Oh, bah, la BCE, elle a un vrai sujet de gouvernance, hein, puisque ça serait très très surprenant qu'elle annonce plus 50, donc elle va annoncer plus 25. Mais comme il y a un certain nombre de membres qui aimeraient bien plus 50 quand même pour des raisons internes, ma crainte c'est qu'on ait un discours...
C'est quoi, c'est les Allemands qui veulent 50? Non.
Bon. Quelques-uns, ouais, ça dépend. Alors les Allemands toujours un peu, hein, mais... Ça veut dire que derrière le discours, et notamment au moment de la conférence de presse, risque d'être un petit peu hawkish, comme on dit dans notre jargon. En fait, la surprise, ce serait plus 25 et un discours accommodant.
D'accord.
C'est ce qui serait une surprise positive ouais, pour le marché.
Voilà. Vous attendez à quoi, Stanislas ?
Non, je pense que 25 points de base, c'est vraiment le cas central et qu'on ne devrait pas en sortir. C'est probablement pas la dernière, il y en aura peut-être une de plus à la prochaine réunion.
Oui, hein, la BCE est... Enfin, très en retard par rapport à la Fed, mais là, bon, vu que la Fed maintenant s'arrête...
Alors, elle a commencé plus tard. Elle a un problème d'inflation cœur qui est au moins aussi important en zone euro que celui des États-Unis. Donc, il faut quand même
s'y baisse un petit peu.
Faire converger. Oui, mais à peine.
Un petit peu l'info.
Et surtout, elle est au-dessus, elle est largement au-dessus de l'inflation et on voit bien que le rythme pour la faire redescendre va mettre un certain temps. Donc, je pense que les choses importantes, c'est de voir qu'on est dans les dernières hausses.
Ouais.
Il en reste peut-être une après. La question ensuite, c'est combien de temps on va rester sur ce plateau élevé? Et notre point de vue, c'est qu'on va quand même y rester un certain temps du fait de ce problème d'inflation cœur élevé. Et donc les marchés qui anticipaient notamment aux États-Unis des retournements assez rapides de la politique monétaire des banques centrales, je pense que c'est là qu'il y a une divergence ou un point peut-être d'écart, c'est que les banques centrales vont chercher à tenir ces niveaux de taux relativement élevés assez longtemps pour calmer complètement ce problème d'inflation et éviter qu'on y revienne régulièrement.
Ce sera long d'arriver à 2%, hein. Parce que là, à partir de 7, on est à 7, zone euro.
C'est plus compliqué pour la BCE, objectivement, Vincent. Mais là où je diverge un tout petit peu, c'est que sur la Fed, je pense que ça va arriver plus vite que prévu. La hausse d'hier, finalement, ça me fait penser à le dernier verre en soirée qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on prenne, mais qu'on prend quand même parce que tout le monde nous dit qu'il faut le prendre. Et je pense qu'ils le savent. Et d'ailleurs, dans le discours, on l'avait hier.
C'est un petit verre, hein, 25 mois de base.
Un petit verre, ouais. Oui. Il y a eu des doubles verres, en plus, dans la soirée. Et,
alors, sur la métaphore du verre, les banques ont un peu bu la tasse, hein, aux États-Unis. Alors,
justement, on va en parler, justement, de la composante crise bancaire.
Et même dans la conférence de presse, quand on a été lui poser la question sur les marchés anticipent des baisses, est-ce que vous êtes prêts, sa réponse a été de dire, si l'inflation reste à ce niveau-là, on ne baissera pas. Mais il sait très bien que l'inflation ne va pas rester à ce niveau-là aux États-Unis parce qu'elle baisse très très vite. Et donc les 4 baisses de taux anticipées sur un an glissant aujourd'hui, ça se trouve, ce ne sera même pas ça qu'on aura, on aura peut-être même plus.
D'accord.
La BCE, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, on est, comme dit Stanislas, dans un registre d'inflation qui dure un peu. Nous, les Français, on le sait pourquoi. On a bloqué les prix et puis derrière, évidemment, ça a du mal à rebaisser derrière. Mais ça viendra forcément en décalé également.
Bloquer les prix de l'énergie.
L'énergie ou plein d'autres choses.
Stanislas, on est dans la Fed là maintenant. Hein, donc voilà, dernier petit verre avant la fin de la soirée.
Ouais,
on en a
gros
pris des
sujet
gros
bancaire, quand même,
ces derniers mois.
Dont on ne voit pas vraiment
on
la fin.
On va aller rapidement.
Ouais, gros sujet sur les banques régionales dont on a du mal à voir la fin. Une erreur.
On dit que la hausse des taux, c'est bon pour les banques. Ben non, hein, jusqu'à un certain point.
Pas quand c'est trop rapide.
Ouais. On en a la démonstration.
Et par ailleurs,
inverse aux
États-Unis. Ça augmente énormément le coût de la ressource pour les crédits. Et les banques n'ont finalement pas assez protégé leurs dépôts en augmentant les rémunérations dans un marché qui est beaucoup plus réactif que le marché européen, où finalement, nous, on laisse notre argent dans notre banque. Aux États-Unis, si on peut avoir du 4% sur un fonds monétaire et que la banque ne
vous rémunère
qu'un
ou deux. Oui, sur un fonds monétaire. Mais les dépôts, les comptes courants ne rapportent rien dans les grandes banques.
C'est mais du coup, la compétition, 0,05. La compétition aux États-Unis face à des fonds monétaires qui rapportent aujourd'hui 4,5% et jusqu'à 5% dans les prochaines semaines est très forte. Donc aujourd'hui, il faut que les banques se battent pour garder les dépôts et donc les payent, ce qui in fine augmentera le coût des crédits, puisque ce sont les dépôts qui amènent le financement pour les crédits. Et donc tout ça est aussi un mécanisme de ralentissement pour l'économie américaine. Et ça, je pense que la Fed, elle l'a bien compris. Elle a aussi fait une erreur de régulation. Depuis 10 ans, les banques européennes sont très régulées, très protégées, du coup beaucoup plus solides aujourd'hui, en tout cas celles de la zone euro, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, en particulier sur les banques régionales. Donc je pense qu'il va y avoir aussi un gros pivot réglementaire sur l'intégralité du secteur bancaire américain et en particulier sur les banques tier 2, c'est-à-dire en dessous des 4 grandes.
Donc vous diriez que ce n'est que le début de la crise bancaire aux États-Unis, ça a commencé avec Silicon Valley, First Republic, là on parle de PacWest Bancorp.
Non, ça n'est pas que ça va pas forcément empirer en crack, mais ça va avoir de nombreuses répercussions, notamment dans le financement des PME et des ETI qui avaient accès notamment par ces banques régionales au crédit. À partir du moment où ces banques régionales sont dans une situation plus difficile, sont obligées de rémunérer davantage les dépôts, le coût de la ressource va augmenter, le coût du crédit va augmenter, et donc ça va être, en termes de ralentissement économique, ça va avoir un impact aux États-Unis.
Et on commence à le voir, ça, sur l'indice Russell 2000, hein, celui des...
Qui est très sous-performant
des
par rapport
et moyennes
S&P 500.
Capitalisation. Quelque chose à rajouter sur ce point, justement, de l'impact
Non, ce qui est très important,
Le secteur bancaire et donc le reste de l'économie américaine.
Oui, c'est très important à comprendre la diffusion. En fait, que des petites banques dont on connaissait pas le nom la semaine dernière sautent aux États-Unis. Je rappelle qu'en 2008, il y a peut-être presque un, je sais plus le chiffre, mais presque un millier de banques qui a sauté, bien au-delà de Lehman Brothers. Mais aux États-Unis, il y a plein de petites banques qui ont des loans et des assets qui sont parfois très petits. On voit bien qu'il y a un sujet de confiance du coup qui se crée dans le secteur, et même une grosse banque européenne qui a publié de bons résultats, forcément doit se dire dans un comex de banque, il faut faire attention à nos dépôts, il faut accentuer notre programme de refinancement, et puis on va limiter la production sur le crédit. Donc ça, ça a un vrai impact sur l'économie réelle derrière, que ce soit aux États-Unis, mais que ce soit également en Eurozone, par justement la raréfaction de cette matière première qu'est l'argent. Et donc, ça entraîne mécaniquement un ralentissement plus ou moins prononcé de l'économie, quoi qu'il arrive.
Pour en rester sur les États-Unis, quand on regarde la courbe des taux de la Fed, on se rend compte que là, ça y est, on est arrivé au même niveau, au même pic qu'en 2006, lors du précédent cycle. Et on voit pas mal de commentateurs de Wall Street assez suivis qui font le parallèle entre ce moment qui a été suivi par un plateau et la crise financière et le niveau où on en est maintenant. Cette fois, ça va être différent ?
Oui, alors les niveaux sont les mêmes. Après, la situation sous-jacente n'est pas la même à l'époque. Il y avait.
Alors en 2006, au niveau justement, au moment où on était à 5,25%, il n'y avait pas une telle inflation. C'est pour ça que vous dites le contexte est différent.
En fait, ce qui a amené la crise, c'est qu'il y avait quand même un sujet via le financement subprime qui avait amené dans les actifs des banques et de certains assureurs.
Ça, en 2006, on ne le savait pas encore.
Mais du coup, les marchés ont très bien tenu jusqu'au début de l'année 2008 ou la fin de l'année 2007. Donc, il y a toujours un moment entre les deux. Mais à l'époque, il y avait quand même un problème très spécifique d'un pan de l'économie, l'immobilier, qui s'est développé via des prêts qui n'auraient jamais dû exister et qui s'était retrouvé dans un certain nombre de bilans bancaires ou d'investisseurs de long terme et qui a amené cette crise majeure. Ce qui est certain, c'est qu'on ne remonte jamais les taux de 500 points de base sans avoir d'impact négatif, pas forcément anticipé au début. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez SVB ou dans d'autres petites banques. Et ça, on va les voir ailleurs, dans d'autres secteurs, probablement dans le secteur auto, parce qu'entre le coût des véhicules qui a pris entre 10 et 15% en 2-3 ans à cause de l'inflation, plus, puisque maintenant la plupart des véhicules sont vendus en leasing, le coût de financement qui est passé de 0 ou 0 plus en zone euro à 4%, le coût de votre leasing sur 4 ans glissant, il a explosé entre les deux. Donc là aussi, c'est des secteurs...
Avec les entités financières de financement des constructeurs
Sont obligées de répercuter.
Ils sont en deuxième ligne, là.
Elles vont être obligées de répercuter sur les nouveaux leasings. La répercussion de coûts de financement est beaucoup plus élevée pour elles aujourd'hui. Et en plus de la hausse du prix des véhicules, ça va changer, qui fait qu'un véhicule équivalent, pour le renouveler, le prix ne sera plus du tout le même aujourd'hui. Donc on va aussi avoir, du fait de cette nouvelle situation, différents impacts sur plusieurs secteurs.
Que dire de plus sur l'impact de cette remontée brutale et de ce qui pourrait suivre? En fait, peut-être pas les 2 ans qui viennent, mais dans les mois qui viennent, on risque de connaître une crise sévère.
Il y a forcément des similitudes quand on regarde 2008, même si en réalité il n'y en a pas tant que ça. Peut-être que la crise dont on ne se souvient plus très bien, qui ressemble le plus, c'est celle des savings and loans début des années 80. Puisqu'on est un peu dans le même registre, c'est-à-dire qu'on a monté les taux brutalement à l'époque pour arrêter vraiment une inflation qui était galopante.
J'ai pas trop la mémoire de ce qui s'était passé.
C'était un peu pareil, c'est-à-dire les caisses d'épargne américaines, donc les banques régionales avaient aussi financé avec leurs dépôts une inflation forte de la production de crédit, et puis ça s'était fini par pas mal de faillites. Mais ce qui était intéressant, si on compare par rapport à la crise 2008, c'est que ça n'a pas empêché le PIB aux États-Unis de s'assouplir, évidemment, dans cette période-là, mais de continuer. C'est-à-dire que tout un tas d'autres pans de l'économie fonctionnaient correctement, malgré cette crise bancaire qui était plus localisée. Je crois plus à une ressemblance à quelque chose comme ça qu'à une similitude avec la crise 2008. On voit beaucoup d'articles qui aiment bien crier au loup sur le sujet, donc on est forcément vigilant. C'est pas du tout la même chose d'avoir une bulle de construction. Là, il y a une bulle sur l'immobilier non résidentiel, certes, avec des dégradations de prix qui inévitablement vont se retrouver ici et là. Mais je crois que l'économie peut quand même mérite une récession, sans doute.
Alors, bon, justement, oui, en 2006-2007, on parlait pas de, on n'avait pas la perspective d'une récession aux États-Unis.
Non,
là, même Jérôme Powell parle d'une petite récession.
On n'a jamais autant attendu une récession. Finalement, les récessions qui font assez mal sur les marchés ou qui ont un impact très négatif, c'est celles qui vous prennent par surprise. Soit parce qu'elles arrivent sur un choc, le Covid ou autre chose.
Voilà.
Là, on attend cette récession depuis le mois de septembre. Pour le mois de mars, etc., et ainsi de suite, on la décale dans le temps. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir mécaniquement un ralentissement. La hausse des taux est tellement violente par son ampleur et sa vitesse qu'elle va avoir un impact. Mais probablement, quand on voit la santé des entreprises et les marges, on en parlait tout à l'heure, qu'elles ont reconstituées, il y aura la capacité de la juguler. Et donc, probablement, on sera pas du tout dans un cas à la 2008 parce que on a moins ces problèmes systémiques. Le marché, aujourd'hui, ne se focalise plus sur un problème qui, là, pour le coup, est toujours très présent, mais qui est celui de la dette des États et des déficits, notamment aux États-Unis, ce qui, par ailleurs, dans les prochaines semaines, peut générer un peu de volatilité avec la négociation
de la dette,
la remontée du plafond de la dette, ce qui est quand même un sujet majeur.
Ils trouveront une solution.
Mais c'est vrai que cette récession qui est très flaguée, attendue, discutée depuis maintenant quasiment 9 mois, il y a
Jérôme Powell l'a évoqué il y a moins de temps que ça.
Mais à partir du moment où elle est aussi montrée du doigt, elle rentre dans l'intégralité des scénarios et c'est aussi ce qui fait, ce qu'on disait tout à l'heure, que malgré de bons résultats, on a des marchés qui commencent à plafonner un petit peu aujourd'hui.
Parlons des résultats. On a commencé à en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez là des récentes publications? Finalement, il y a BNP Paribas qui a été relativement bien accueilli, mais c'était un élément exceptionnel. C'était sur une session.
Elle a baissé hier.
Voilà. Oui, mais très peu. Enfin, je veux dire, ça n'a pas eu la même correction que Stellantis et que certaines autres aujourd'hui, comme c'est peut-être un cas un petit peu particulier, Casino, mais on en voit d'autres comme Veolia.
C'est un cas très particulier.
Ils sont sanctionnés. Voilà. Et qui éclabousse tout le secteur d'ailleurs, hein, parce qu'on voit que Carrefour en souffre aussi de cet effet casino. Mais qu'est-ce que vous retenez de ces dernières publications?
C'est typique de marché un petit peu topiche, hein. C'est-à-dire que les résultats c'est toujours le reflet du passé. Donc les résultats sont très bons. Les résultats des banques vont être très bons sur le premier trimestre. Mais tout le monde se pose la question, bien sûr, de maintenant faut rémunérer les dépôts, faut faire des DAT, donc les marges d'intérêt vont être sous pression. Donc quid de l'avenir? Donc sell the news, c'est l'ambiance d'un marché topiche.
On vend sur la nouvelle et on attend. Pas seulement des entreprises qui publient, qu'elles confirment leurs perspectives. Il faut qu'elles les révisent à la hausse.
Absolument.
Ouais. C'est ce qu'on constate. Particulièrement aujourd'hui, hein, les résultats qu'on a eus. Les premiers trimestres sont
très bons. Les guidance, donc les objectifs de résultats pour l'année, paraissent aujourd'hui peu ambitieux. Mais je comprends tout à fait que les managements, on a fait un tiers de l'année, ne veuillent pas se mettre trop de risques en remontant malgré le bon premier trimestre. Donc eux restent dans les guidance, ils disent on n'y touche pas pour le moment, ils changeront peut-être en juillet-août lors de la publication des semestriels, mais du coup c'est souvent pris par le marché comme une déception après un premier trimestre qui a été largement en avance.
Là on parle d'entreprises françaises, il y a Apple ce soir, hein. Et là véritablement, c'est toujours assez conservateur, hein, Apple.
En anglais ils appellent ça le beat and raise, c'est-à-dire on publie systématiquement au-dessus.
Ça sera encore plus regardé que d'habitude.
Et on donne de nouvelles perspectives supérieures. Après, c'est toujours assez volatile d'un trimestre à l'autre, mais structurellement, on voit que ces grandes entreprises de la technologie conservent des trends assez bien établis de croissance.
C'est la dernière grande GAFAM à publier, et c'est ce soir. Dans ces conditions, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles chez Montpensier? Quelle est la tendance là?
Chez Montpensier, on va avoir envie de faire un petit portefeuille, on va dire sell in May and go away.
Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu celle-là.
C'est-à-dire.
Même moi, je ne l'ai pas sortie aujourd'hui.
Mais on va la sortir. Il ne faut pas oublier quand même que du 1er mai au 30 octobre,
statistiquement,
si on regarde sur très long terme, alors ça fait beaucoup moins bien que sur le reste du marché, sur le reste de l'année, pardon. Et ça monte quand même. C'est-à-dire que le vrai bon portefeuille sur les S&P, si on regarde de plus en temps, c'est de le garder tout le temps. Mais c'est normalement, d'un point de vue saisonnier, une période un petit peu moins favorable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie, chez Montpensier Finance, de réduire un petit peu le risque action. S'il y a bien des soldes, on sera à même de pouvoir intervenir. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur les valeurs de qualité, sur les valeurs un peu défensives, valeurs qu'on peut de dette. Les joyaux, on les appelle ça les joyaux.
Encore le luxe alors.
Non, il y a plein de joyaux dans tout un tas de secteurs. Mais il y a plein de secteurs, il y a plein de valeurs sur lesquelles on a effectivement des cours qui nous rendent quand même confortables.
Vous avez le droit d'en parler ou non? de nous en...
Le luxe, par exemple, c'est très difficile à vendre. Hein. Ouais. Tous ceux qui ont vendu se sont mordus les doigts. Ouais. Moi, le premier, mais j'ai
regardé le luxe.
Très content de savoir qu'ils ont, ils ont rien vendu. Si on regarde sur la partie obligataire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le portage joue, même jusqu'à un fonds monétaire aujourd'hui. Ça nous permet d'attendre de manière confortable, en fait. On est bien rémunéré pour attendre dans des marchés qu'on peut juger taux
de marché. Le monétaire, c'est encore moins de 1%, là, non?
Non, le monétaire, aujourd'hui, vous êtes à plus de 3 et vous serez à 3, enfin, en dépôt. Et donc, vous allez gagner 25 points de base de plus à partir de. Enfin, c'est annoncé ce soir et c'est en place.
C'est quand on regarde la performance sur 12 mois, alors qu'on est.
Alors, sur 12 mois, puisque vous aviez des taux négatifs jusqu'au mois de juillet l'année dernière. Mais depuis, ça s'est complètement inversé.
D'accord, ça s'accélère.
Et donc, je reprends. Donc, encore une fois, les valeurs de qualité, les valeurs défensives, les valeurs qui sont sur les secteurs de relance, la transition climatique, la pharmacie, Stanislas parlait de la pharmacie, je suis tout à fait d'accord avec ça, la digitalisation, tout ça, ça va rester. Sur l'obligataire, faire du portage, pas prendre trop de risques dans ce contexte-là. Et il y a la petite niche quand même des obligations convertibles, parce qu'en tant qu'aussi ancien gérant convertible, quand on a à la fois de l'incertitude, du portage, et des difficultés de financement pour les entreprises, parce que les banques restreignent un petit peu le crédit, en général, on a pas mal d'émissions d'obligations convertibles, et c'est plutôt des performances futures en devenir.
Puis ça a été tellement massacré en 2022, je crois.
Et en plus, c'est une classe d'actifs qui est délaissée, parce qu'elle n'a pas très bien marché dans les années d'avant.
Stanislas, le mix idéal.
Alors, je partage entièrement le point sur le portage. Nous, c'est vraiment... je pense que les obligations, et en particulier les obligations d'entreprise, ont retrouvé leur lettre de noblesse qu'elles avaient perdue depuis plus de 10 ans. C'était une classe d'actifs complètement délaissée. Inintéressante. Les obligations d'État étaient en dessous de zéro, même il y a 18 mois. Mmh. Et là, aujourd'hui, on retrouve ça. Donc, on a même fait des produits dédiés à ça chez Sycomore, avec des horizons pas très longs jusqu'à 2026. Et on pense que ça continue à être le cas. Des fonds datés, exactement. Et on pense que ça, c'est très attractif aujourd'hui. Et même contre les actions. Parce que si vous avez 5,5 de rendement, le risque supplémentaire sur les actions, vous devez au moins gagner entre 7 et 10% pour que ce risque supplémentaire... Mmh. Vaille la peine.
Il faut des signatures de bonne qualité.
Il faut des signatures de bonne qualité, mais on en trouve, et on en trouve beaucoup en Europe, même dans le secteur auto. Des entreprises comme Renault, si vous regardez, ont encore une rémunération sur la partie obligataire tout à fait attractive. Mmh. Après, sur la partie action, on devient plus prudent, notamment hors d'Europe, sur la partie américaine, où aujourd'hui les grandes entreprises sont vraiment bien valorisées. À une phase du cycle où globalement on a eu de très bons résultats, on a des taux qui sont montés, c'est pas les meilleures périodes pour avoir des expositions élevées aux actions. Mmh. Et en Europe, il y a deux parties, il y a à la fois les positions plus défensives, on a parlé de la pharmacie, il y a eu les télécoms qui ont fait un bon début d'année aussi, donc ça c'est très bien. Et de l'autre, il y a les valeurs cycliques qui sont très volatiles, donc c'est compliqué, il faut être beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif dessus, mais qui présentent quand même des niveaux de valorisation assez attractifs. On parlait de BNP Paribas, de Santander, on pourrait parler de Stellantis, donc ça va être beaucoup plus agité, on n'est pas sur les meilleurs business models. En revanche, elles présentent quand même aujourd'hui, leur valorisation inclut déjà des perspectives de récession ou de périodes beaucoup plus difficiles devant nous. Donc finalement, quand on a des creux de marché ou de la volatilité, ça peut générer des points d'entrée aussi sur ces...
Vous aussi, vous attendez des soldes éventuels.
ça peut arriver.
Ça pourrait bien arriver, effectivement. En tout cas, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce regard croisé. Stanislas de Bailliencourt, Sycomore Asset Management, et Sébastien Barbe, Montpensier Finance. Voilà, bientôt 11h30 sur BFM Business. Bien entendu, il y a le replay, si vous voulez revivre toutes les séquences de cette émission BFM Patrimoine. Voilà, il y a un QR code, si vous le regardez à la télévision, qui va s'afficher. Dans un très court instant, on va de nouveau parler des marchés et rejoindre Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance. Petite pause et on retrouve Jean-Louis. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Un petit peu plus d'11h30, et d'ailleurs c'est la dernière ligne droite de cette émission BFM Patrimoine. Un peu plus d'11h30, on retrouve Jean-Louis Cussac comme promis chez Perceval Finance Conseil. Moins 0,73 Jean-Louis sur le CAC 40, 7349, ça s'est dégradé par rapport à tout à l'heure. Je crois qu'on n'est pas très loin des plus bas de la séance. Bon, qu'avez-vous fait depuis tout à l'heure?
J'ai racheté ce que j'avais revendu, mais bon, si vous voulez, j'ai acheté entre 7326 et 7310, donc j'ai commencé un petit peu. Il y a vraiment rien d'enthousiasmant sur ce marché, c'est certain. 650 millions, vous voyez, en termes de volume, on a peu évolué. On a évidemment avancé un peu, mais il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose à raconter. Le pétrole a fait un trou d'air, il est reparti. Bon, vous voyez, en fait, il y a trois choses qui vraiment impactent le marché. C'est le plafond de la dette US, le stress du secteur bancaire et l'éventuelle récession. Voilà, là, et ces trois choses-là, ben, ça fait que ça empêche les stratégies offensives, évidemment, les prises d'initiatives à l'achat. Tout le monde s'attend à ce que le marché retrace davantage, donc ben, c'est pas la peine de payer maintenant. Alors en même temps, il n'y a pas vraiment de vendeurs. On a bien vu qu'il n'y avait pas de conviction forte à la vente. Ça peut venir, mais on a eu des trous d'air, des rebonds. On n'a pas encore, vous voyez, par rapport à l'ouverture avec un gap, il n'y a pas eu de relais encore par rapport au plus bas qu'on a fait ce matin juste après l'ouverture. C'est très, très compliqué. Je pense que globalement, faut être hyper prudent, faut pas être trop exposé, faut se couvrir. Voilà, c'est pas un moment où en effet, on va passer à l'offensive, je dirais même sur des stratégies vendeuses, hein, c'est pas le moment. Donc la première alerte vraiment confirmée pour moi, ça reste 7270 futurs mai. Je vais garder ce niveau en référence et je vais continuer à essayer d'être un petit peu opportuniste. L'eurodoll, par exemple, je l'ai acheté là tout à l'heure, on est arrivé sur mon niveau 1,1040. Donc c'est un niveau d'achat. Alors, à un moment donné, je posais la question à quelqu'un qui est sur le marché des devises, j'ai dit, mais je m'étais absenté 5 minutes, je dis, qu'est-ce qui s'est passé là? On a baissé. Il m'a dit, oh, rien, pas de nouvelles, des ajustements de position, rien de particulier. Il me dit, tiens, ton niveau a l'air de fonctionner, j'ai payé. Moi aussi, j'ai payé, et voilà, on remonte un petit peu, on est à 50, hein, c'est rien. C'est à peu près le même niveau, mais ça a bien tenu la zone indice 40. C'est une zone d'achat. Le Rodol reste dans une stratégie haussière, dans un sens prioritaire haussier. On est largement au-dessus des niveaux d'alerte, c'est peut-être le problème. Hein. Le stop-loss, il est sous 1,0780. Ça, c'est le stop-loss chartiste. Sur le plan technique, là, c'est autre chose. Après, les signaux techniques, les gens utilisent ce qu'ils veulent, mais sur le plan chartiste, c'est évidemment assez éloigné. Donc, on picore, on est opportuniste, on s'engage pas trop, et on attend que le marché envoie des indications plus fortes. Mais comme je vous l'ai dit, pour commencer, il n'y a rien d'enthousiasmant sur ces marchés actuellement.
On picore donc sans enthousiasme, nous dit Jean-Louis Cussac. Merci Jean-Louis d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui encore. Trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
On est sur le green avec notre invité Michael Mango aujourd'hui. Bonjour Michael.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique du think tank Two Degrees Investing Initiative. On va parler impact avec vous, bien entendu, et se poser cette question, comment avoir de l'impact quand on investit en bourse spécifiquement. Avant cela, petite présentation de votre think tank Two Degrees Investing Initiative. De quoi parle-t-on?
Oui, c'est un think tank de finance climatique qui vise à aligner les pratiques de la finance avec les accords de Paris. Mmh. Et donc, pour faire cela, il publie des travaux de recherche et il génère des outils aussi.
Vous existiez depuis ?
Depuis, ça doit faire 10 ans.
Ah d'accord, donc vous avez anticipé un petit peu
la vague
actuelle,
bien sûr,
parce qu'on est vraiment sur une vague. Hein. En guise d'introduction, est-ce qu'on peut rappeler ce que veut dire avoir de l'impact pour un investisseur ?
Eh bien, ça juste veut dire aider à contribuer à transformer le monde, avoir un effet sur le monde via ses investissements.
D'accord, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire qu'on a de l'impact comme investisseur quand on investit en bourse dans des entreprises qui elles-mêmes ont un impact positif? Est-ce que ça marche nécessairement comme ça?
Ah, c'est pas si mécanique, malheureusement. Ouais. Non. Alors, on pourrait se dire ça. On pourrait se dire en investissant dans des entreprises vertes, par exemple, des entreprises qui fabriquent.
Le cri haut et fort.
Qui produisent des produits bons pour l'environnement, ouais. Type des fabricants d'éoliennes, par exemple. Mm-hmm. Ou qui sont alignés avec les objectifs de développement durable, on pourrait se dire ça. Mais non, parce que l'impact, ce n'est pas que de la sélection. L'impact, c'est de l'action, surtout. Il faut aider les entreprises à améliorer leur impact. Et donc, on peut, de manière très contre-intuitive, avoir de l'impact sur des entreprises qui avaient un impact positif sur des entreprises qui avaient un impact négatif jusque-là,
oui.
En les aidant à se transformer. Mmh. Et puis aussi, on peut avoir aucun impact en investissant dans des entreprises qui ont déjà un impact positif, parce que vous ne faites rien. Mmh. Donc, c'est pas du tout mécanique. Ça va dépendre de ce que vous faites en pratique pour transformer les entreprises.
Donc on peut investir par exemple dans une entreprise qui, allez au hasard les pétrolières, qui ont une mauvaise image, on peut le dire, de ce point de vue, mais qui montrent qu'elles font des efforts pour
changer.
Ah
non, c'est pas qu'elles montrent, c'est que par vos propres efforts, vous investisseurs, on va dire institutionnels ou privés au sein d'un fonds, vous incitez l'entreprise à se transformer.
Alors justement, comment ça marche? Parce que moi comme investisseur, si j'achète une action, voilà, ça s'arrête là.
Soyons clairs, vous tout seul, vous n'arriverez à rien.
Donc c'est des fonds.
Donc déjà, ça va être vous via un fonds, pas tout seul. Évidemment. Ouais. Et en bourse, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de leviers d'impact que vous pouvez actionner. Il n'y en a que deux. Vous avez l'engagement et l'influence sur les prix de marché. Mais ça aussi, ce n'est pas simple en pratique. Parce que influencer les prix de marché d'une entreprise qui vaut comme Total 140 milliards d'euros, ce n'est pas facile. Il faut être un très gros fonds pour faire ça. On a maintenant des études empiriques qui vous disent qu'en gros, quand vous investissez un euro, vous faites bouger les capitalisations de 2 à 5. Donc si vous voulez bouger le prix total de 20% par exemple, donc ça veut dire 28 milliards, il faut mettre sur la table 5 milliards. Donc il faut être un très 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 gros fonds pour faire bouger les prix de marché, pour qu'après Total soit incité à changer. Et de la même manière, si vous voulez faire bouger les prix de marché, cette fois-ci à la hausse, pas à la baisse, mais à la hausse pour un producteur d'éoliennes comme Vestas par exemple, Vestas c'est 25 milliards en bourse. Donc là, il faut mettre sur la table à peu près 5 fois moins que ce qu'on a dit pour Total, c'est-à-dire à peu près 1 milliard. Là encore, il faut être un très gros fonds. Donc, ce n'est pas facile du tout de faire bouger les prix pour faire bouger les entreprises. Après, il reste l'engagement. Donc, l'engagement, c'est vous dialoguer avec l'entreprise et puis vous participez aux assemblées générales.
Voilà. Dans les assemblées générales, vous votez.
Mais là aussi, il y a un problème de taille. C'est-à-dire que vous êtes une goutte d'eau dans l'ensemble de l'actionnariat de Total. Donc là aussi, il faut être gros. Et le problème des fonds cotés, c'est qu'ils sont petits à l'intérieur des très grandes entreprises. Donc là, on voit très bien qu'il y a un désavantage du côté par rapport au non-coté, au private equity, par exemple. Private equity, c'est beaucoup plus simple. Quand il pèse 30% dans les entreprises, c'est plus facile d'influencer le management. Et puis surtout, dans le non-coté, vous avez d'autres mécanismes sur lesquels vous pouvez jouer. Vous pouvez, par exemple, faire du soutien non-financier aux entreprises. Vous envoyez vos experts dans l'entreprise pour l'aider à se transformer. Et donc, vous lui apportez des compétences. Vous n'allez pas faire ça avec Total. Vous n'allez pas envoyer vos ingénieurs chez Total. Donc, en gros, il y a plein de leviers que vous pouvez actionner dans le non-coté que vous ne pouvez pas actionner dans le coté. Et quand vous pouvez les actionner dans le coté, eh ben, vous êtes trop petit pour avoir une vraie influence.
Donc là, le sujet, c'est avoir de l'impact quand on investit en bourse. Donc, vous nous dites qu'il n'y a pas de solution.
Non, je dis pas ça. Alors, pour certains chercheurs, ils arrivent à une conclusion vraiment tranchée. C'est vous pouvez pas avoir d'impact sur les marchés cotés. On oublie. Par contre, vous pouvez avoir de l'impact sur le non-coté. J'ai pas cette position. J'ai une position plus souple, on va dire, où je pense que vous pouvez avoir de l'impact, mais c'est très difficile et il faut se coordonner avec d'autres investisseurs. Donc un fonds tout seul, ça ne suffit pas. C'est un groupe de fonds qui peut avoir un impact.
Il y a des fonds qui sont spécialisés dans l'impact. Et donc qui ont une espèce de carotte comme ça, qu'ils agitent pour pousser les entreprises dans lesquelles ils investissent à changer, à atteindre leurs objectifs.
Il y a ce que disent les fonds et ce qu'ils font.
Comment font-ils,
malheureusement? Ce qu'ils font, s'ils sont sur les marchés cotés, par exemple les actions, c'est de l'engagement, c'est essentiellement de l'engagement. Donc ça ne peut être que ça de toute façon. Mais même là, on peut se questionner sur l'efficacité de leur politique d'engagement. Si ça fonctionne sur la base d'une coalition d'investisseurs, ça peut fonctionner, mais tout seul, le dialogue avec l'entreprise,
dans leur financement aussi, alors pas sur les entreprises cotées en bourse, mais dans leur financement de certaines entreprises, ils peuvent aussi améliorer les conditions de financement en fonction des efforts que montrent les entreprises dans lesquelles
ils investissent. Tout à fait, mais ça encore, vous ne pouvez le faire que sur le non-coté, parce que sur le coté, par définition, vous achetez sur le marché, sur un marché secondaire. Donc vous ne financez pas l'entreprise. Vous rachetez les titres à quelqu'un d'autre. Donc ça ne peut se faire que éventuellement lors d'augmentation de capital, qui sont assez rares en bourse, en tout cas pour les grosses entreprises. Mais par contre, vous pouvez le faire effectivement dans le non-coté, et là, c'est ce que font des fonds private equity, par exemple.
Quels sont les outils qui mesurent le potentiel d'impact des produits financiers et qui peuvent aider les épargnants à choisir entre...
Mais ils sont en train d'être développés. On commence à avoir des outils de diagnostic d'impact, on va dire. Et donc, vous en avez un qui est en train d'être développé par l'Institut de la Finance Durable, qui est le groupe de place focalisé sur la finance durable au sein de la Bourse de Paris. Et puis, vous en avez d'autres par des think tanks comme 2Degrees, qui est en train d'en développer un aussi. Mais dans tous les cas, vous allez voir quelque chose d'évident, c'est que les scores de potentiel d'impact vont être plus faibles sur le côté par rapport au non-coté. Mmh. C'est juste mécanique. C'est...
Et l'investisseur individuel, en allant sur votre site, on les trouve
Bientôt. Bientôt, d'accord, il trouvera les scores pour les différents fonds et le potentiel d'impact avec un score comme le score de diagnostic de performance énergétique entre A et G.
Dont on va parler et dont on parle régulièrement. Vous viendrez nous l'annoncer quand ce sera,
avec
ce sera disponible. Merci beaucoup, Michael Mango, directeur scientifique du think tank Two Degrees Investing Initiative sur la façon d'avoir de l'impact quand on investit en bourse. Au revoir.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et oui, c'est l'heure des réponses à toutes vos questions, celles que vous nous posez via l'adresse email que vous connaissez, bfmbusiness.fr. Et nous sommes avec Maître Barbara Thomas David. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Paris. Et vous allez répondre à toutes les questions, en tout cas une sélection de questions que l'on nous pose régulièrement ici. On commence tout de suite.
Avec plaisir.
Avec la question de Julie. Je suis propriétaire d'un logement énergivore catégorie G. On me dit qu'il va être interdit à la vente et à la location. Est-ce vrai? C'est la plus mauvaise note ou l'avant-dernière plus mauvaise?
Alors, c'est la plus mauvaise note, le G. Donc, effectivement, il y a eu des lois successives qui ont commencé à entrer en vigueur en 2015, qui font qu'aujourd'hui, quand même, on a eu un couperet au 1er janvier dernier, puisque on dit que depuis le 1er janvier 2023, les logements en catégorie G, avec en plus un kilowatt-heure supérieur à 450, donc c'est très technique, sont interdits à la location.
D'accord.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, pour répondre à la question de Julie, en matière de vente, vous avez toujours la possibilité de vendre un logement très énergivore.
Bon.
Le sujet, c'est plus un sujet de prix. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un volant de négociation plus important des logements.
Ça fait baisser le prix,
quoi. Ça fait baisser le prix ou ça pousse les vendeurs à faire les travaux. Mmh. Ça, c'est en termes de vente. Mais il n'y a pas de loi qui interdit.
Il y en a beaucoup, des vendeurs qui font des travaux.
C'est plus,
parce
en fait...
déjà, même quand on veut le garder pour le mettre en location, on n'est pas sûr de pouvoir financer les travaux.
Bien sûr. C'est plus, effectivement, en termes, comme vous le dites, de baisse du prix au mètre carré, qui a un impact qui se sent véritablement maintenant.
Donc, pas interdit à la vente.
Pas interdit à la vente.
À la location.
Alors, à la location, contrairement à ce qui est une idée reçue, il n'y a pas d'interdiction de louer.
D'accord.
Ce qu'il y a, c'est que, la commune dans laquelle votre bien est peut avoir pris un arrêté qui autorise les locations. Et donc, vous devez passer par une autorisation de la commune pour pouvoir louer votre bien. Et vous pensez bien que dans cette autorisation, ils mettent maintenant les diagnostics de performance énergétique. En disant, attention, dans notre commune, vous ne pouvez pas louer si vous n'êtes pas en E, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, si vous louez un logement énergivore, c'est-à-dire en G, votre locataire, il peut très bien dire, OK, j'accepte le contrat et ensuite vous faire un gentil procès en vous disant maintenant, je vous demande de respecter les obligations qui sont, elles, d'ordre public et de faire les travaux nécessaires. Donc, effectivement, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Il peut même y avoir une injonction du juge qui va suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que les travaux soient effectués.
On ne peut pas s'engager
là-dedans.
Savoir si une commune autorise malgré tout ma location d'un bien qui est G?
Il faut vous renseigner. Il faut vous renseigner. Là.
Je ne sais pas, c'est une majorité de communes en France l'autorise.
Alors,
ou c'est très très rare.
Pour le moment, c'est à la marge.
Par exemple, les grandes villes.
Alors, par exemple, Paris, vous n'avez pas d'autorisation.
Voilà. Donc,
pour
là,
le moment,
là,
c'est réglé. Mais à terme, peut-être.
Ah, d'accord, très bien. Il y a d'autres grandes villes. Il y a des grandes villes qui ont des autorisations.
Pour,
je peux en citer.
Pour le moment, non. Les grandes villes n'ont pas fait parce que c'est extrêmement procédural. Mais il faut savoir que c'est une possibilité.
Question d'Émilie. J'achète une résidence secondaire avec piscine. Le diagnostic n'est pas conforme. Puis-je obliger mon vendeur à une remise en état avant la signature de la vente?
Non.
Qu'est-ce qui n'est pas conforme? Le diagnostic de la maison, de la piscine, de l'ensemble?
A priori,
pas de diagnostic sur les piscines.
Alors, il y a effectivement un dispositif de sécurité obligatoire en matière de piscine qui date de 2004.
Rien à voir avec la consommation énergétique.
Rien à voir du tout. Et si vous voulez, l'obligation du vendeur, c'est comme pour tous les diagnostics, c'est une obligation informative. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'informer... D'afficher la couleur, exactement. Ouais. Pour les piscines, comme pour le gaz, comme pour l'électricité.
D'accord.
Une fois que votre acquéreur a ce qu'on appelle un consentement éclairé, c'est à lui de dire j'achète ou j'achète pas, ou je négocie. Mais votre vendeur n'a pas une obligation de remettre son dispositif de piscine à la norme.
Là, on parle de piscine, mais l'électricité, par exemple, c'est très fréquent, l'électricité vétuste. On doit dire que l'électricité, si on ne l'a pas fait refaire avant de le vendre, est vétuste.
Vous avez une obligation de diagnostic, c'est-à-dire,
Oui, dans le diagnostic, effectivement, c'est contrôlé.
Si vous ne le faites pas, bon, vous avez le notaire qui va vous dire qu'il faut le faire, mais si vous, en admettant que vous ne le fassiez pas, votre acquéreur peut se retourner contre vous, en disant, voilà, vous ne l'avez pas fait, et donc il y a un vice, et je demande la réparation du vice. Mais à partir du moment où vous avez informé votre acquéreur et qu'il a un consentement éclairé, vous pouvez parfaitement vendre un bien avec une piscine qui n'est pas conforme, une électricité qui n'est pas aux normes ou du gaz qui n'est pas aux normes. Mais
que ce soit dit clairement.
Il faut que ça soit dit clairement.
Il n'y a pas d'obligation de remettre en état, mais il faut que ce soit dit clairement pour répondre à Émilie. Question d'Hervé. J'ai entendu parler d'un audit de performance énergétique obligatoire pour vendre depuis... Moi aussi, j'ai entendu. Depuis le 1er avril dernier. Je suis en copropriété. Suis-je concerné?
Alors, non. D'accord. Pour le moment, non. L'audit de performance énergétique, petit rappel par rapport au diagnostic de performance énergétique. Diagnostic de performance énergétique, on va dire que c'est le prêt-à-porter et l'audit de performance énergétique, c'est le sur-mesure. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, cet audit, c'est un état des lieux détaillé de votre logement avec des scénarios pour que vous puissiez avoir un logement qui est moins énergivore. Donc, c'est quelque chose de très détaillé. C'est obligatoire pour les maisons, pour le moment, qu'elle soit individuelle ou en copropriété. Mais pour tous les logements en copropriété verticale, c'est-à-dire un appartement, pour le moment, c'est pas obligatoire. Ça le deviendra peut-être à terme, mais comme c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, pour le moment, c'est uniquement pour les maisons.
Lourd et cher, par rapport à un DPE, ça coûte le double.
Oui, ça coûte plus du double. Ça
d'accord.
coûte
plus du double, d'accord. Donc il n'y a pas que les DPE, il y a aussi les APE. Oui. Mais les APE, c'est quand on vend. Hein.
Tout à fait.
Quand on doit mettre en location, non. C'est le prêt-à-porter, comme vous dites, le DPE suffit.
Le DPE suffit.
Sofiane, j'achète une maison, mais mon vendeur n'a pas obtenu la conformité au permis de construire suite à une extension. Quels sont les risques pour moi?
Alors, en fait, je dirais...
Est-il important?
Oui, il y a des risques. Donc, en fait, la première chose, c'est conseiller à l'acquéreur, au vendeur, de se mettre d'accord et aller essayer de régulariser les choses en mairie. Parce que c'est peut-être simplement un oubli du vendeur, après l'extension, d'avoir son certificat de conformité. Bon, si d'aventure, malheureusement, c'est pas un oubli et qu'il y a un permis de construire qui, par exemple, a été déposé par une extension de 30 mètres carrés et que finalement, c'est 40 mètres carrés qui ont été construits,
c'est vous n'allez... ça.
Pardon ?
C'est fréquent ça, un dépassement de...
Ouais, ça arrive, ouais. ça arrive. Ouais. À la marge, mais ça arrive. Donc là, le certificat de conformité, clairement, vous n'allez pas l'obtenir. Donc, il y a des sanctions qui sont en fonction du délai dans lequel les travaux ont été faits. Donc, déjà, il y a des prescriptions civiles. C'est-à-dire que pendant 10 ans, la mairie va pouvoir, à compter de l'achèvement des travaux, la mairie va pouvoir se retourner et demander soit une mise en état, soit carrément une destruction. Ça, la mairie, elle a une prescription décennale. Au bout de 10 ans, la prescription est acquise. Pour les riverains, vous avez également une action qui est prescrite par 5 ans à compter de la connaissance des travaux. Donc là aussi, vos voisins peuvent demander des dommages et intérêts, voire carrément la destruction.
Vos voisins.
Parce que
ça gâche leur vue.
Par exemple.
D'accord.
Par exemple, ça gâche leur vue. Vous avez une extension en hauteur et donc vous avez une servitude de vue, par exemple, qui empiétait. Donc du coup, ils sont légitimes à demander soit une destruction, soit une indemnité. Ça peut partir en convention.
Toute extension nécessite, enfin toute extension, ça dépend, nécessite, extension importante, un permis de construire.
Oui.
C'est quoi les règles? Faut que ce soit une certaine surface.
Oui, 10 mètres, vous avez plus de 10 mètres carrés, il faut absolument un permis de construire, sinon une autorisation de travaux suffit.
Et une fois que c'est fait, certificat de conformité.
Mais oui,
ça doit toujours être vérifié.
Parce que vous obtenez un permis de construire et puis finalement vous le respectez pas. Donc il faut le certificat de conformité. Donc ça c'est vraiment très important pour Sofiane. Puis ensuite il y a également des servitudes qui sont imprescriptibles. Autrement dit, si vous avez passé les 10 ans, vous dites, je suis tranquille, la mairie ne va pas m'embêter, mes voisins ne peuvent plus m'embêter. Sauf que si jamais vous voulez redéposer un permis de construire, là, la mairie vous attend au tournant, en disant, attention, vous n'avez pas eu la conformité, moi, je ne vous autorise pas à construire votre nouvelle extension, régularisez d'abord, et ensuite... je serais enclin à vous donner votre nouveau permis de construire. Donc, vous
voyez, on a une petite chance quand même.
Il y a vraiment des obligations à respecter. Donc.
Allez, une toute dernière question. Elle nous vient de Léa. J'achète un appartement avec terrasse, mais elle ne figure pas dans le descriptif de mon lot. C'est un petit peu étonnant. Quelles conséquences ? Ça peut arriver, ça ?
Ah oui, ça arrive.
Ah, d'accord.
Donc, en fait, si vous voulez, dans une copropriété, vous achetez un lot de copropriété et vous n'avez de partie privative que sur ce qui est inscrit dans votre lot. Donc clairement, si la terrasse n'est pas dans le lot, c'est pas une partie privative. Alors il faut aller regarder dans le règlement de copropriété parce que c'est peut-être une partie commune à usage.
C'est plus qu'un balcon, hein.
Bah oui, voilà. Bien sûr. C'est peut-être une partie commune à usage exclusif de ce propriétaire-là. Donc, on regarde dans le règlement de copropriété. Et si rien n'est écrit, ça veut dire que c'est une partie commune. Donc ça, un, ça déprécie la valeur du bien. Deux, il faut peut-être faire un modificatif au règlement de copropriété. Pas pour le passer en partie privative, parce que c'est compliqué et cher, parce qu'il faut vendre, il faut passer par une vente, mais peut-être une autorisation et une modification du règlement de copropriété pour que cette terrasse devienne, certes une partie commune, mais à usage exclusif.
Comment est-ce qu'une terrasse allant avec un appartement, par exemple, peut être aussi une partie commune.
Eh bien, parce qu'encore une fois, vous savez
c'est un toit terrasse ou que je sais pas. Ou...
Oui.
Est-ce qu'on considère aussi, par exemple, un petit lopin de jardin?
Ça peut être ça aussi. Ça peut
être ça. Le résident du rez-de-chaussée.
Exactement. On peut considérer la copropriété au moment où l'immeuble a été mis en copropriété. Les copropriétaires ont pu considérer que tout ce qui était extérieur était des parties communes à usage exclusif. Donc ça a un intérêt quand même, c'est que quand c'est une partie commune, vous avez une obligation d'entretien, mais vous n'avez pas une obligation aux grosses réparations. Donc votre terrasse, elle subit par exemple une inondation et il y a des problèmes d'étanchéité, ça sera à la copropriété de payer l'intégralité des travaux.
Si c'est une partie commune.
Si c'est une partie commune.
Autrement, c'est à vos frais.
Exactement.
Mais si les dommages créent des problèmes pour le reste de la copropriété, c'est toujours, et que c'est une partie privative, c'est quand même à vous de financer les travaux.
Si jamais c'est une partie privative, tout à fait.
Différence entre un balcon et une terrasse, à partir de quelle surface on considère qu'un balcon est une terrasse? Il y a des règles?
C'est conventionnel. Ouais, c'est conventionnel et quand rien dit, normalement les balcons et terrasses sont des parties communes. Mais clairement, vous retrouvez la réponse à cette question dans votre règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété, bah, quand on fait une acquisition, on doit l'avoir. Hein.
On doit l'avoir.
Le vendeur doit le fournir.
Le vendeur doit le fournir.
Même s'il remonte à Mathusalem.
Bien sûr. Et le notaire est là, justement, on est là pour le regarder et pour attirer l'acquéreur sur les points d'attention importants.
Donc ça, c'est fondamental quand on achète et même quand on est locataire. Hein.
Bien sûr.
Le bailleur à l'obligation de présenter le règlement de copropriété. Merci maître.
Avec
pour
plaisir.
Toutes ces réponses à nos questions. Maître Barbara Thomas David, notaire à Paris, merci d'être venu jusqu'à nous dans BFM Patrimoine. Et bonjour Sandra Gondois.
Déjà, bonjour Vincent Touraine.
Déjà en poste pour nous donner le sommaire de 90 minutes business.
Alors à votre
dans
avis,
moins
de quoi
5
on
minutes.
Pourrait parler aujourd'hui?
Ça commence par banque et ça se termine par centrale.
J'en ai bien peur, effectivement, après la fête.
En trois lettres.
Et voilà, on va rejoindre Aude Kersulek tout à l'heure dans le journal à Francfort, évidemment, pour savoir ce que va faire la Banque Centrale Européenne. On parlera aussi de casinos hein, dont les ventes ont baissé de 2%, 2,3% en France au premier trimestre. Et c'est vraiment pas le moment hein, parce que Casino négocie sa restructuration. Vous le savez, on en parlera avec Mathieu Pechberti dans le Focus.
Durement sanctionné en bourse. Hein,
voilà.
Ça entraîne les autres valeurs de la distribution. Hein,
exactement. Baisse,
notamment Carrefour. Ouais.
Donc on y reviendra à 12h05. Et puis notre invité, on parlera voyage, mais voyage vert, attention, on va vous aider à faire
un voyage
très bas en émissions carbone. C'est Tic Tac Trip qui sera avec nous, son cofondateur Hugo Bazin, qui sera avec nous à 12h15. Donc, Vincent.
Pas question de prendre l'avion alors.
Ah non.
Ces conditions.
Avion, voiture,
hein.
On va essayer d'éviter.
Même pas
justement.
Voiture.
Voiture, on essaye d'extraire hein, ce mode de transport. En tout cas, c'est leur stratégie.
Le train, le vélo ou alors à pied. Il ne faut pas aller très loin.
À 12h15, Vincent.
Mais je serai là. Enfin, je serai pas là sur le plateau, mais je vous écouterai.
J'espère bien.
Ainsi que Jean-Marc Daniel, bien entendu, qui est déjà dans la coulisse.
Évidemment, là pendant toute l'heure.
Merci Sandra. On se retrouve dans quelques minutes. Je vous rappelle le CAC 40, moins 0,73%, 7350 dans l'attente justement du communiqué de la BCE. 14h15 en principe. Et je vous rappelle donc cette spéciale BFM Business BCE dès 14h, présentée par Guillaume Sommerer. Nous, on se retrouve dès demain à partir de 10h pour un nouveau numéro de BFM Patrimoine. Très bonne journée à toutes et à tous.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.